L'Iran a l'intention de transformer ses frontières avec le Pakistan en frontières économiques sécurisées. Attaque israélienne en Cisjordanie, 11 Palestiniens ont été arrêtés et des dizaines d'autres blessés. Et les dirigeants africains appellent à des réformes du système financier international. C'était les principaux titres. En voici le journal. Dimanche 16 juillet, le président iranien Ebrahim Raisi s'est entretenu avec le général Saïd Hassimonir, chef de l'armée pakistanaise à Téhéran. Lors de cette rencontre, le président iranien a considéré le développement des marchés frontaliers ainsi que la coopération dans le domaine de l'énergie comme étant les moyens de transformer les frontières entre les deux pays en frontières sécurisées et économiques. Ebrahim Raisi a mis l'accent sur le renforcement des relations bilatérales entre Téhéran et Islamabad afin d'atteindre cet objectif. Précisant que le développement des relations avec les pays voisins alignés et musulmans était l'une des priorités de la politique étrangère de la République islamique d'Iran, le président Raisi a fait part de la volonté des deux pays d'élargir leurs relations bilatérales. En outre, le président iranien a déclaré que la mise en œuvre des accords renforcerait la coopération économique et commerciale et par conséquent, le niveau des relations politiques entre Téhéran et Islamabad s'améliorerait. Ailleurs, dans ses remarques, le président Raisi a fait part des tentatives des ennemis dans le but de perturber les liens des deux pays de la région. Il a également souligné le renforcement de la coopération et des interactions bilatérales et régionales en tirant profit des opportunités et des capacités mutuelles. Pour sa part, le général Saïd Hassimonir a rendu hommage à la République islamique d'Iran pour ses efforts afin de renforcer les relations avec ses voisins, y compris le Pakistan, les considérant comme une opportunité précieuse pour le monde musulman. Se référant à la longue frontière entre l'Iran et le Pakistan, le chef de l'armée pakistanaise a déclaré que le développement des interactions économiques et commerciales consoliderait la stabilité régionale. Le général Mounir a ajouté que de bons accords ont été conclus afin d'assurer une sécurité durable dans la région. Le secrétaire général du Haut Conseil iranien des droits de l'homme a déclaré que l'Irak était responsable de la poursuite des auteurs de l'assassinat du vénéré commandant antiterroriste le général Rassem Soleimani. Le responsable iranien a fait ses remarques dimanche à Téhéran lors d'une rencontre avec un groupe de présidents et de professeurs d'université irakienne pour un échange de vues sur l'utilisation instrumentale et la politisation des droits de l'homme par l'Occident. Kazem Ghalib Abadi a décrit l'Iran et l'Irak comme deux victimes des sanctions et du terrorisme, ajoutant que les États-Unis sont le principal sponsor du terrorisme dans le monde. L'Iran et l'Irak sont victimes des sanctions et de la terreur. En Irak, 500 000 enfants innocents ont perdu la vie à cause des sanctions américaines et occidentales, a-t-il noté. Saluant les sacrifices et les services du général Soleimani et de son homologue irakien Boumati Al-Mohandes dans la lutte contre le terrorisme, le responsable iranien a déclaré que les deux commandants ont soutenu les peuples irakiens et syriens dans l'élimination de Daesh et d'autres groupes terroristes, malgré le fait que ces groupes bénéficiaient du soutien occidental. Il a souligné que l'assassinat des deux commandants était un crime contre l'humanité et que l'administration américaine en doit être tenue légalement responsable de sa faute fatale. Le premier ministre irakien Mohammad Shia Al-Soudani a appelé à renforcer la coopération avec la Syrie pour relever les défis communs, soulignant que la sécurité et la stabilité des deux pays sont deux facteurs qui favorisent une plus grande unité pour faire face aux problèmes. Al-Soudani fait ses annonces lors d'une conférence de presse conjointe avec le président syrien Bachar al-Assad dans la capitale syrienne Damas dimanche 16 juillet après que les deux dirigeants ont eu des entretiens visant à sécuriser leurs frontières communes et à renforcer les liens économiques. L'Irak et la Syrie sont liés l'un à l'autre et ont des relations communes. Afin de faire face aux défis auxquels l'Irak et la Syrie sont confrontés, une coordination doit être faite entre les deux parties, a-t-il déclaré. La clé de la sécurité et de la stabilité de la région est une bonne situation économique et nos forces armées ont résisté aux terroristes, a-t-il ajouté. Al-Soudani a poursuivi en disant que l'Irak et la Syrie sont confrontés à des problèmes de pénurie d'eau, soulignant que les deux parties devraient coopérer pour garantir leur droit équitable à l'eau. Le grand défi est qu'une grande partie des droits d'eau que la Syrie et l'Irak ont sur le Tigre leur est volée, a-t-il déclaré en raison de la construction d'un barrage en amont par la Turquie voisine. Le premier ministre Aka a en outre noté que les deux parties avaient convenu de renforcer leur coopération pour réduire le trafic de drogue. Il a également déclaré que l'Irak soutenait la levée des sanctions contre la Syrie, qui ont été mises en place par les États-Unis et les pays européens depuis 2011, ajoutant que ces portes sont ouvertes aux investisseurs. Al-Soudani est arrivé dimanche à Damas pour une visite officielle de 2 jours. Le premier voyage de ce type d'un premier ministre irakien depuis le déclenchement du conflit syrien en 2011. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que la contre-offensive lancée par l'Ukraine contre les forces de son pays depuis le mois dernier n'avait pas réussi et qu'elle avait donc échoué. Toutes les tentatives ennemies pour percer nos défenses n'ont pas réussi depuis le début de l'offensive. L'ennemi ne réussit pas, assurait le chef de l'État russe dans une interview télévisée diffusée dimanche. Cette annonce présidentielle russe a été faite après que l'Ukraine a elle-même reconnu vendredi que ses effectifs n'avançaient pas aussi vite que voulu dans leur offensive lancée contre les forces russes. « Aujourd'hui, cela n'avance pas si vite », a dit à la presse le chef du bureau présidentiel ukrainien Andriy Ermak. Le même jour, des responsables à Kiev ont déclaré que les troupes ukrainiennes avaient avancé de près de 2 km le long du front sud au cours de la semaine passée. Un représentant de la garde nationale ukrainienne a indiqué que les troupes du pays se dirigeaient vers la ville méridionale de Melitopol pendant l'offensive en cours, alors que l'armée a dit qu'elle poursuivait des opérations offensives vers Melitopol et Berdyansk. La semaine dernière, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que la livraison lente des armes promises par l'Occident retardait la contre-offensive, appelant les États-Unis et d'autres alliés à fournir à Kiev des armes et de l'artillerie à longue portée. Moscou dit avoir déclenché la guerre pour défendre la population pro-russe des régions ukrainiennes de l'est de Luhansk et de Donetsk contre les persécutions de Kiev et aussi pour dénazifier son voisin. Les dirigeants africains ont donné dimanche le coup d'envoi du sommet de coordination demi-année de l'Union africaine, lors duquel les participants ont discuté de l'intégration économique et appelé à des réformes du système financier international. Selon Amina Mohamed, vice-secrétaire général des Nations Unies, alors que le monde continue à faire face à des crises sans précédent, dues aux impacts socio-économiques de la pandémie de COVID-19, le continent africain est celui qui a le plus souffert. Affirmant que les engagements non tenus de la communauté internationale en matière de financement de l'action climatique et les réponses humanitaires inadéquates ont encore aggravé les obstacles aux efforts déployés par l'Afrique et ses dirigeants pour mettre en œuvre l'agenda 2063, elle a noté que les Nations Unies se sont jointes à l'appel des dirigeants africains au sujet de l'allocation de ressources supplémentaires à leurs économies par le biais du Fonds monétaire international FMI, qui a été au centre des critiques de plusieurs dirigeants africains. De son côté, le président kényan, William Ruto, qui s'est joint à d'autres dirigeants pour appeler à des réformes de la Banque mondiale et du FMI, a souligné que le continent africain était soumis à un système d'endettement mondial injuste, obligeant les pays à payer au moins 8 fois plus que leurs homologues plus riches en raison de leurs risques perçus. « Nous ne demandons pas la charité. Nous devons avoir l'égalité dans le système international », a-t-il déclaré. L'équipe masculine iranienne de volleyball est devenue championne du monde après avoir battu l'équipe italienne en 5-7. Lors de la finale en dents de scie du championnat du monde FIVB de volleyball masculin des moins de 21 ans, qui s'est déroulée dimanche 16 juillet à Bahreïn, l'équipe iranienne a célébré une victoire en 5-7 sur l'Italie pour reprendre le trône qu'elle avait conquis en 2019 mais qu'elle avait perdu en 2021 face aux Italiens. Il s'agit de la deuxième médaille d'or de l'Iran dans l'histoire de la compétition. L'équipe iranienne avait également remporté une médaille de bronze en 2007. Le président iranien et le ministre des Affaires étrangères ont salué la victoire de l'équipe de volleyball. Le président Ebrahim Raisi a publié un message de félicitations dimanche, en fin de journée, félicitant l'équipe masculine iranienne de volleyball, ses entraîneurs et toute la nation iranienne pour cette formidable victoire. Il a décrit la victoire de l'équipe comme une nouvelle manifestation des capacités et des talents de la jeunesse iranienne. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. Le Hezbollah organise une attaque simulée contre Israël. Le mouvement de résistance libanais Hezbollah lance une attaque simulée contre un avant-poste militaire israélien au nord des territoires palestiniens occupés. Le bureau de presse du Hezbollah libanais a publié dimanche 16 juillet une vidéo de 6 minutes de l'opération, quelques jours après que le Liban a célébré le 17e anniversaire de la guerre de 33 jours d'Israël à l'été 2016. Intitulée « Personne ne veut nous vaincre », la vidéo montre des combattants de la résistance prenant le contrôle de l'avant-poste israélien, érigeant des banderoles du Hezbollah et démolissant l'avant-poste alors que les soldats de l'occupation étaient piégés à l'intérieur. La vidéo a été publiée dans un contexte de tensions accrues le long de la frontière entre le Liban et les territoires occupés. Mercredi, le secrétaire général du Hezbollah, Saïd Hassan Nasrallah, a déclaré que la victoire de 2006 a jeté les bases d'une dissuasion qui continue d'exister encore, détruisant ainsi la dissuasion israélienne. L'ennemi israélien cherchait par tous les moyens à empêcher le renforcement de la résistance au Liban, mais en vain, a-t-il ajouté. Nasrallah a en outre déclaré que la victoire de 2006 avait mis le régime de Tel Aviv sur la pente du déclin et marqué un moment décisif dans l'histoire du Liban, façonnant son destin dans la région pour les années à venir. Le Liban a combattu deux guerres israéliennes en 2000 et 2006. À ces deux occasions, la contribution du Hezbollah sur le champ de bataille s'est avérée un atout indispensable, forçant l'armée israélienne à battre en retraite et brisant le mythe de l'invincibilité d'Israël.